Voici maintenant votre bulletin d'actualité locale pour ce mardi 28 juillet. Notre journaliste Marie-Paul Berthiaume rapporte que la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry demande aux Britanno-Colombiens de planifier dès maintenant leur célébration pour le long week-end du jour de la Colombie-Britannique afin de rester en sécurité. Elle a par ailleurs annoncé 81 nouveaux cas de la COVID-19 entre le vendredi 24 et le lundi 27 juillet. Elle a comme toujours suggéré à la population de profiter de l'extérieur en ajoutant au passage que le virus de la COVID-19 peine à survivre sous les rayons du soleil. La docteure Henry a tenu à partager une méthode d'évaluation des risques lors de rencontres avec autrui, en particulier avec ceux qui ne font pas partie de notre bulle. Elle a conseillé de trouver une activité plus appropriée si l'on ne peut pas répondre clairement et de façon sécuritaire aux questions suivantes. Comment allez-vous donner aux gens l'espace nécessaire pour rester en sécurité? Passerez-vous un court ou un long moment ensemble? Pensez-vous vraiment être dans la bulle des personnes que vous allez côtoyer? Aucun d'entre nous ne souhaitait une pandémie et nous devons maintenant nous y adapter, a déclaré la médecin hygiéniste. Plus de 1000 Britanno-Colombiens sont désormais en quarantaine à travers la province et la docteure Henry a tenu à rappeler que l'auto-isolement n'est pas optionnel mais bien obligatoire. De plus, ceux qui se font tester ont le devoir de s'auto-isoler en attendant leurs résultats. La Colombie-Britannique compte désormais 108 nouveaux cas actifs supplémentaires depuis jeudi passé, portant le total des cas d'infection depuis la mi-mars à 3500. Deux décès supplémentaires ont été signalés depuis jeudi passé, tous deux dans des établissements de soins de longue durée. Il y a un nouveau cas depuis jeudi dans la régie de santé de l'île de Vancouver, portant le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie à 143. L'épidémie communautaire à Haida Gwaii implique maintenant 14 cas d'infection chez les résidents. La nation Haida s'oppose depuis plusieurs semaines à la réouverture des pavillons de pêche privés, citant le risque de transmission des touristes. Campement dans Beacon Hill Park. Le premier ministre de la province n'est pas d'accord avec la décision de Victoria. Le premier ministre, John Horgan, dit qu'il n'est pas d'accord avec le choix de Victoria en ne faisant pas appliquer les règlements interdisant le camping de jour à Beacon Hill Park. Mais la mairesse de Victoria, Lisa Helms, dit que la ville ne fait que suivre les instructions des autorités sanitaires. Il y a actuellement près de 100 personnes qui campent à Beacon Hill Park. Les logements abordables sont rares et les services auxquels les personnes vivant dans les refuges où ils ont d'habitude accès sont ouverts sur des horaires restreints s'ils sont ouverts depuis la pandémie. La mairesse de Victoria a déclaré que la ville avait pris cette décision difficile malgré les critiques des citoyens de suivre les conseils de la médecin hygiéniste en chef afin de respecter les droits humains, en particulier en temps de pandémie. John Horgan a fait remarquer que la province a entrepris d'importantes initiatives pour loger les personnes qui dormaient sur l'avenue Pandora et dans le parc Topaz. À Victoria, environ 340 personnes séjournent actuellement dans des hôtels qui ont été achetés par la province pour être convertis en logements avec des services. Times Colonist rapporte que le conseil du district régional de la capitale a accepté d'explorer la possibilité d'utiliser le Hogbay Lodge, un bâtiment comptant 238 lits pour les sans-abri. Le portrait de l'agent fédéral de la santé Teresa Tam, vandalisé, et celui de l'interprète en langue des signes, Nigel Howard, couvert de croix gammées. Martlet rapporte que les portraits qui bordent la rue Government ont été vandalisés avec des propos racistes, des croix gammées et d'autres inscriptions. Les peintures représentent la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, l'agent fédéral de la santé Teresa Tam, l'interprète en langue des signes, Nigel Howard, et les personnages historiques Florence Nightingale et Ignace Semmelweis. Dans le terrain vide où l'hôtel Plaza a brûlé l'été passé, les peintures murales sont accompagnées de citations et de mots de remerciement adressés aux autorités sanitaires. Les graffitis Repéré pour la première fois par le Martelette le dimanche 26 juillet, dénigre et se moque des figures de la santé dont les portraits ont été peints pour inspirer. Les vandales n'ont pas touché au portrait du défunt médecin hongrois Ignaz Semmelweis. Monsieur Semmelweis a découvert l'importance du lavage des mains pour la santé publique dans les années 1800. Les nouveaux logements de Juvik devraient atténuer la crise locative, selon John Hurgan. Près de 800 nouveaux logements étudiants, actuellement en construction à l'Université de Victoria, contribueraient à atténuer la crise du marché locatif du Grand Victoria, a déclaré le Premier ministre John Hurgan. Times Colonist rapporte qu'un des deux bâtiments devrait ouvrir ses portes en 2022, le second en 2023. Les logements seront proposés au prix du marché, a déclaré M. Hurgan lors d'une téléconférence lundi. Le projet comprend deux nouveaux bâtiments pour les logements et un réfectoire de 600 places à l'extérieur de Ring Road, au sud de Student Union Building. Une cuisine, une petite épicerie et un café font également partie des plans. Les structures remplaceront le Cadborough Commons et deux bâtiments résidentiels plus anciens, le Margaret Newton et le Emily Carr. Ce projet de plus de 232 millions de dollars est financé entre autres par la Colombie-Britannique qui contribue à hauteur de 128 millions de dollars, dont 98 millions de dollars proviennent de l'initiative du logement pour étudiants, d'un prêt de 25 millions de dollars et de subventions. Plus de 60 nouveaux logements locatifs abordables sont en construction à Victoria. Le projet d'habitation comprendra un bâtiment de 5 étages à ossature de bois situé à Quadra Village, au 2570 rue Fifth. L'immeuble de 64 logements comprendra des studios, des appartements d'une, deux et trois chambres pour les ménages dont le revenu annuel se situe entre 48 000 et 5 000 $. Il comprendra également des locaux commerciaux au rez-de-chaussée qui seront loués par la Vancouver Island School of Art située à proximité. Les 64 logements font partie des 3400 logements abordables que la province compte construire en partenariat avec Harris Development dans l'ensemble du district régional de la capitale. La province fournit un financement de construction pouvant atteindre 17,2 millions de dollars. Ce projet devrait être terminé au printemps 2021. Les revenus liés à l'hébergement de Victoria en baisse de 86% en juin. Selon de nouveaux chiffres de la Tourism Industry Association de la province, les revenus provenant de l'hébergement à Victoria ont chuté de 86% en juin, après avoir chuté de 90% en avril et en mai. Ces chiffres ont été donnés par l'association lorsqu'elle a demandé au gouvernement provincial une aide de 680 millions de dollars. Vic News rapporte que selon l'association, les 19 300 entreprises de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie de la province ont généré plus de 8,3 milliards de dollars de PIB provincial et 4,5 milliards de dollars de recettes fiscales directes sur les 20,4 milliards de dollars de dépenses directes par les visiteurs, créant ainsi des emplois dans l'industrie du tourisme avec plus de 300 000 travailleurs. Selon l'association, les perspectives économiques à long terme du secteur sont sombres, plus sombres que dans toute industrie confondue. Dans les meilleures prévisions, les revenus du tourisme diminueraient de 4,8 milliards de dollars, soit 69%, passant ainsi de 20,4 milliards de dollars en 2018 à 6,7 milliards de dollars en 2020. Sans soutien, le secteur du tourisme pourrait voir plus de 100 000 emplois perdus en 2020 et des milliers d'entreprises fermées définitivement. Un service de gestion des bernaches. Le district régional de la capitale pourrait bientôt se pencher sur le problème des bernaches, qui peuvent vivre jusqu'à 20 ans, dans la région après avoir déclaré que les fonctionnaires fédéraux n'avaient pas répondu à une demande d'aide. Le conseiller municipal de Saanich, Colin Plant, qui préside le conseil du district régional de la capitale, a écrit à Ottawa l'année passée pour obtenir une aide financière. En l'absence de réponse, Colin Plant a présenté un plan à la réunion du comité de la semaine passée pour envisager d'avoir un service dédié à la gestion des bernaches. Sa recommandation de faire appel à l'aide du personnel pour préparer un rapport a été appuyée à l'unanimité. La question des oies s'est intensifiée au fil des décennies. Les fermes, les parcs locaux et les plans d'eau sont tous endommagés par les bernaches lorsqu'ils picorent et défèquent. Nous avons eu des années de dégâts avec ces oies et des années qui atteignent, des dégâts qui atteignent des dizaines de milliers de dollars, a déclaré Rob Galley de Galley Farms à Check News. Monsieur Galley a tiré la sonnette d'alarme il y a déjà plusieurs années. Du poisson pour nourrir plus de 70 ratons laveurs. Les filets de poisson non assaisonnés et non cuits sont les préférés des jeunes ratons laveurs du Wild Animal Rehabilitation Center de la BCSPCA de Metchosen. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Vic News rapporte que la directrice adjointe Tara Tom dit que l'offre de poisson diminue avec plus de 70 ratons laveurs à nourrir pendant la haute saison d'avril à octobre. Wild Ark fait appel à la communauté pour des dons de poissons de toutes sortes mais de moins de 6 mois. Les personnes intéressées peuvent déposer leurs dons au 10-20 Mallock Road entre 8h et 20h, 7 jours sur 7, ou appeler le 1-855-622-7722, 1-855-622-7722 pour des questions. Concernant la pandémie COVID-19, toutes les informations les plus récentes sont sur le site bccdc.ca. Vous pouvez également rester informé avec Marie-Paul Berthiaume, notre journaliste, sur radiovictoria.ca.